L'émission suivante est également publiée sur notre blog Un héros dans le net. Rendez-vous dans la section commentaires pour joindre la discussion.
Bonjour et bienvenue à cette émission de Parole à propos. Alors, mon nom est Jacques Pelletier, je suis le pasteur de l'Église réformée baptiste de la capitale et je suis toujours en compagnie du pasteur Pascal Deneau de l'Église évangélique réformée baptiste de Saint-Jérôme. C'est bien ça, Pascal?
Oui, oui, on rit parce que il y avait une hésitation sur le nom quand on discutait. Parce que officiellement, le nom de notre église, c'est pas l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme, mais c'est bien l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Et on ajoute sur notre carte, sur notre enseigne, entre parenthèses, réformée baptiste, parce que c'était pas mal compliqué là avec le gouvernement de faire un changement de nom. Alors, on l'a pas fait pour l'instant. On sait pas si on le fera, mais en tout cas, on est une église dans la même confession, la même tradition que vous, la même association. Mais notre nom, c'est l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Comme nous disait le pasteur Perron, que votre nom soit sanctifié.
Oui, OK. Donc, l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme, si on veut abréger le tout, parce que c'est ce que vous êtes en fin de
compte. Oui, tout à fait.
Donc, Pascal, nous avons discuté lors de la dernière émission sur la question de qu'est-ce que l'Écriture sainte. Enfin, on s'est promené un petit peu dans tout cela, il est vrai, là, mais en gros, on a essayé de voir ensemble qu'est-ce que l'Écriture sainte, de parler du canon et tout cela. Et j'aimerais qu'on puisse aborder dans cette nouvelle émission la question, encore une fois, on en a déjà discuté, mais revenir sur la question et développer un peu plus cette question, donc la question de la nécessité de l'Écriture sainte, hein, l'impératif, le caractère indispensable de la Bible, de l'Écriture sainte. Je pense que c'est une question qui est très, très pertinente, parce que bien des gens vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un livre? Hein? Pourquoi est-ce que les chrétiens tiennent tellement à ce livre-là? Et on peut se poser aussi la question, bon, si Dieu existe, hein, si Dieu a créé toute chose, est-ce qu'il n'est pas capable de se révéler directement, tout simplement? Même les croyants peuvent parfois se poser la question, ou même avoir une tendance à penser justement que Dieu pourrait un peu court-circuiter ce qu'on pourrait considérer comme un vieux livre, d'ailleurs. Ouais. Beaucoup de gens considèrent la Bible comme étant complètement dépassée au niveau culturel, scientifique, et même théologique, parfois. Hein. Mm-hmm. Donc, et on a discuté juste avant de l'enregistrement sur la question du fait que, je pense que c'est un bon point de départ, qu'il existe, en fait, deux révélations dans l'histoire. Il y a une révélation dite générale, la nature elle-même, la création, et la révélation spécifique qui est la parole de Dieu. Et quand on dit parole de Dieu, encore une fois, ici, nous voulons dire les saintes écritures. Alors, j'aimerais peut-être vous laisser la parole, pasteur Pascal, pour entamer la discussion et peut-être commencer avec la question, mais qu'est-ce que la révélation générale?
Oui. Ben, juste avant, j'aimerais moi aussi faire du pouce sur le fait que je trouve que la question est pertinente, le sujet de la nécessité des Écritures, parce que c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de gens se disent croyants, c'est-à-dire qu'ils affirment croire en Dieu, mais ça reste vague, ça reste général, et l'idée de passer par un livre, par une institution, par eux-mêmes, ils vont dire une religion pour connaître Dieu, c'est pas du tout tendance, c'est pas à la mode, hein. Les gens vont dire, écoute, oui, parle-moi de Dieu, mais lâche-moi Jésus, lâche-moi la Bible, ça m'intéresse pas, alors que la Bible se présente comme étant absolument nécessaire pour connaître Dieu. Elle affirme même que si quelqu'un rejette cette parole, c'est Dieu qui le rejette. Et le Dieu qu'il prétend connaître n'est pas Dieu du tout. C'est un faux Dieu, c'est une idole. Alors, donc, c'est assez sérieux, cette affirmation-là, qu'on déclare comme ça ouvertement. Si votre Dieu n'est pas le Dieu de la Bible, ben vous ne connaissez pas Dieu et vous ne suivez... on peut pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Alors, d'où l'absolue nécessité des Écritures saintes pour la connaissance de Dieu. Alors, on en vient à ce que vous avez dit, donc les deux révélations générales et spéciales. La dernière émission, j'ai lu un petit paragraphe de la Confession de foi. J'ai pas lu la première partie du paragraphe. En fait, c'est le tout premier paragraphe de la deuxième Confession de foi de Londres de 1689. Et ce que ça nous dit, bon, c'est que l'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance à salut, de foi et d'obéissance. Donc, la seule source de la connaissance de Dieu et pour connaître la vérité, pour savoir comment avoir la vie éternelle, c'est l'Écriture sainte, la Bible qui nous le révèle. Et ça ajoute ceci. Quoique la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse et sa puissance de façon à rendre les hommes inexcusables, elles ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église, donc par sa parole, par l'Écriture. Alors, il y a la révélation naturelle. Et tout ce paragraphe est basé en fait sur Romains 1. Vous êtes d'accord avec ça, pasteur Pelletier?
Absolument. Absolument.
Alors, Romains 1, qui est un chapitre essentiel pour comprendre c'est quoi la révélation générale. Je vous laisserai peut-être élaborer, il me semble que ça fait un petit bout là, que je m'entends parler.
C'est beau, je vous écoutais parler aussi. Mais effectivement, je pense qu'on peut résumer ça tout simplement par ceci. La création, hein, et ça comprend l'être humain aussi, sa conscience, le fait qu'il ait créé l'image de Dieu. La création nous parle de Dieu, elle nous dit qu'il y a un Dieu. Hein, ça, elle nous parle des perfections invisibles de Dieu, de son caractère éternel, de sa toute-puissance, mais elle n'est pas suffisante pour nous donner, elle ne nous donne pas tous les détails concernant la personne de Dieu, hein, qu'il est véritablement, et encore moins ce qui concerne le salut. Hein. Mm-hmm. Et pour cela, bien, il a fallu une révélation qu'on appelle spéciale. Révélation générale s'adresse à tous les hommes. Et tous les hommes, selon les Écritures, ont reçu assez de lumière pour pouvoir savoir qu'il y a un Dieu et pouvoir le chercher. Malheureusement, l'Écriture nous dit que les hommes ne le cherchent pas réellement. C'est ce qui va donner naissance à toutes sortes de religions, toutes sortes de philosophies, hein, la multiplicité des croyances. Mais Dieu a aussi donné une autre révélation à l'homme, qui est la révélation particulière ou spécifique. Et c'est cette révélation-là qui a fini par atterrir sur un support écrit qu'on appelle l'Écriture. Je me souviens pas, vous avez lu quelques...
Oui, j'ai lu le premier paragraphe de la Confession de foi.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez lu jusqu'à la fin? Je m'excuse, j'en ai manqué un petit bout.
Ben non, il est comme divisé en deux, en tout cas dans le dans l'édition qu'on en a fait. Là, j'ai lu juste la première partie du premier paragraphe.
OK, c'est ça. Parce que ce qui suit après ça, ça nous dit bien sûr que Dieu s'est révélé, justement. On en a parlé lors de dernière émission. Dieu a parlé, Dieu a accompli aussi des actes hein, de puissants, des actes rédempteurs dans l'histoire. Mais notre confession de foi poursuit en disant « Ensuite, pour que la vérité soit mieux gardée et propagée en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur qu'elle soit toute mise par écrit, d'où le caractère indispensable de l'Écriture. » OK, peut-être qu'on pourrait enchaîner là-dessus, Pascal, parce que c'est une chose que Dieu a parlé, Dieu s'est révélé, hein, et Dieu a fait même des miracles dans l'histoire, on est d'accord avec cela. Mais il nous est dit ici, pour que cette parole révélée, pour que cette révélation de Dieu soit gardée et propagée en face de la corruption de la chair et de la malice de Satan. Ça, c'est très intéressant, c'est très, très bien dit. Et effectivement, ça nous parle ici du caractère indispensable de l'Écriture sainte. Dieu parle, mais qu'est-ce que les hommes vont faire avec? Peut-être vous pourriez enchaîner là-dessus, Pascal.
Oui, ben c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que quand Dieu parle, que ce soit par la révélation, je ne sais pas si j'entends comme un grichement, je ne sais pas s'il y a un problème.
Je n'en ai aucune idée, mon cher Pascal.
OK, ah, bon, c'est peut-être... juste le fil du microphone. Donc, quand Dieu parle, l'homme doit répondre. Et ça, lorsque Dieu parle, ça tient l'homme responsable devant Dieu. Que l'homme écoute ou pas, même qu'il l'entende ou pas, lorsque Dieu parle, l'homme est tenu de répondre. Et donc, on a dit, Dieu a parlé de deux façons différentes. Il a parlé par la révélation générale. Qui est donc la création, qui implique également la conscience de l'homme, qui est un reflet de la loi de Dieu. Hein, la conscience nous fait de nous révèle notre caractère moral, qu'on n'est pas seulement des animaux, mais que nous sommes des êtres moraux, des personnes qui sont à l'image de Dieu et qui ont une conscience qui les défend ou qui les désapprouve. Parce que c'est Dieu qui nous a donné cette conscience. Cette révélation que Dieu fait de sa justice par notre conscience, mais également dans la création. On lit dans l'Épître aux Romains. Ce qui suit, Romains 1, à partir du verset 18, ça nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc Dieu manifeste la vérité aux hommes, mais est-ce que les hommes l'écoutent? Est-ce que les hommes tendent l'oreille et se soumettent à cette vérité? Eh bien, la Bible dit non, ils tiennent la vérité captive. Ils ne veulent pas se soumettre à cette vérité. Et Paul enchaîne en disant « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Et il termine en disant « Ils sont donc inexcusables. » Alors, en somme, ce que l'apôtre Paul dit, c'est que la création de Dieu révèle le caractère de Dieu. Si vous venez chez moi alors que je suis absent de mon domicile, bien seulement le lieu où j'habite va vous dire des choses sur moi. Si vous regardez dans mon garde-robe, vous pouvez voir mes goûts vestimentaires. Si vous regardez dans mon réfrigérateur, vous voyez de quoi je m'alimente. Si la maison est propre ou en désordre, ça vous révèle si je suis quelqu'un d'ordonné ou pas. Je donne un exemple parfois, la table de cuisine qui est chez vous, peut-être que vous savez même pas qui l'a faite. Hein? Mais vous croyez que quelqu'un l'a conçue, qu'elle n'est pas apparue par elle-même, que c'est pas seulement un arbre qui a poussé comme ça, hein, c'est une table en bois. Vous n'avez jamais vu la personne, mais vous savez qu'elle existe. Pourquoi? Parce que son travail lui rend témoignage. Et vous savez pas si c'est un homme, si c'est une femme, vous savez pas son âge, vous savez pas si elle est vivante ou morte, cette personne, mais vous savez que c'est une personne, vous savez aussi qu'elle avait un plan, elle a conçu une table, même si c'est tout simple à faire, qu'elle avait une intention, qu'elle avait la capacité de le faire, qu'elle avait des membres pour réaliser. Parce que son œuvre vous révèle ces choses-là sans même que vous ayez vu cette personne. Alors, c'est ce que Paul dit ici. La création de Dieu nous révèle les perfections invisibles de Dieu, nous révèle sa puissance éternelle, sa divinité. Lorsqu'on regarde le monde, lorsqu'on regarde sa complexité, lorsqu'on regarde tout cela, eh bien, on voit qu'il y a un créateur. La création lui rend témoignage. Ouais. Comme même, comment il s'appelait, c'est Voltaire qui disait, qui était pas un croyant au sens biblique du terme, mais qui disait que le monde était une horloge qui rendait témoignage à un horloger. Il faut qu'il y ait un horloger, quelqu'un qui ait réglé cette horloge pour qu'elle fonctionne. Et je termine avec ça. Le point que l'apôtre Paul veut développer, c'est que cette révélation générale, elle est insuffisante pour mener à la véritable connaissance de Dieu. Les hommes retiennent la vérité captive. Même s'ils voient des choses de Dieu, ça ne les amène pas à le révérer, à le connaître lui véritablement et à se prosterner devant lui. Au contraire, ils se font des idoles. Hein, ça dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc, autrement dit, ce que la Bible enseigne, c'est que l'homme, à partir de la révélation générale, n'est pas ramené à Dieu, mais il est conduit vers l'idolâtrie à cause de l'endurcissement de son cœur, à cause de son incapacité à bien interpréter la révélation générale, la lumière que la création lui envoie de Dieu, et il est inexcusable. La révélation générale, elle est suffisante pour rendre l'homme inexcusable. Elle est insuffisante pour le mener à Dieu, mais elle est suffisante pour le rendre inexcusable de ne pas avoir glorifié Dieu. Alors j'arrête ici. Ouais.
Et le même phénomène se produit face à la révélation dite spécifique, Pasteur Pascal. C'est-à-dire que la révélation générale, elle est là. Hein, elle ne bouge pas, elle rend témoignage depuis des siècles aux hommes de l'existence de Dieu, de ses perfections invisibles, et les hommes, malgré tout, se détournent de Dieu et se sont tournés d'ailleurs vers toutes sortes de fables, d'inventions hein, au niveau philosophique ou religieux.
Oui, parce que même l'homme moderne, c'est pas seulement ceux de l'Antiquité qui se faisaient des totems, puis l'homme moderne se fait des idoles modernes, conceptuelles, que ce soit la théorie de l'évolution athée, ces choses-là.
Mais voilà. Et Dieu a parlé. Dieu s'est révélé de façon spécifique, mais justement, En raison, ça nous dit bien, notre confession de foi exprime bien ce que l'Écriture nous dit, en raison, justement, du fait que les hommes ne cherchent pas Dieu, eh bien, le fait que Dieu se soit révélé dans l'histoire et parlé, que Dieu ait accompli des miracles, nous savons que les hommes ont repris ces choses-là et ont une tendance, justement, à déformer les faits ou même à les oublier ou à les nier. Alors, Dieu, dans sa sagesse, a désiré, a voulu que cette révélation plus spécifique, qui nous révèle un peu plus qui il est, mais aussi notre besoin de salut et le fait que ce salut est en la personne du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a fait en sorte que cette révélation atterrisse sur un support écrit qu'il a, il a lui-même bien sûr dirigé la rédaction de tous les livres des Écritures. Encore une fois, c'est servi des hommes, mais c'est vraiment sa parole. Peut-être juste rappeler ce que l'apôtre Paul nous dit, écrit à Timothée, son fidèle collaborateur. Il me semble que j'avais pris une note là-dessus. Juste, attendez-moi un petit peu, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il nous dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Le mot « inspiré » ici, ça n'a pas le sens qu'on lui donne habituellement, c'est-à-dire comme si quelqu'un a un sentiment tout à coup et des belles idées qui lui passent par la tête. C'est vraiment l'idée que ce sont les mots mêmes de Dieu qui ont atterri sur le support écrit par l'entremise, par l'instrumentalisation de ceux dont il s'est servi. Et donc, même si c'est le langage des hommes qui est employé, c'est vraiment Dieu qui parle. Et la raison, c'est afin que cette vérité soit préservée tout au long des siècles, pour que les hommes, malgré tous leurs mensonges, ne puissent justement pas retenir captive cette vérité, et pour que le peuple de Dieu, les croyants, puissent reprendre cette vérité, eux-mêmes la connaître, l'approfondir et la transmettre, la prêcher et la transmettre dans leur propre génération et dans les générations futures, afin que l'Évangile puisse être entendu dans le monde.
Exact. Parce que, voilà, c'est ce qui rend l'Écriture absolument nécessaire. En raison de l'état de notre monde depuis Genèse 3, depuis la désobéissance, la chute, le péché qui entre dans le monde, il y a une corruption. Et cette corruption, bon, d'une part, fait en sorte que l'homme interprète mal la révélation générale et qu'elle ne l'amène pas au vrai Dieu, mais le conduit vers des idoles, vers le mensonge. Et fait en sorte aussi qu'il est opposé à la vérité de Dieu, à la révélation. Que dans le cœur de l'homme, l'homme naturel, j'entends, l'homme qui est laissé à lui-même, là, qui n'a pas rencontré Dieu, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, eh bien, dans son cœur, il y a un antagonisme, il y a une hostilité face à Dieu, qui le pousse à changer la vérité en mensonge, à rejeter la révélation de Dieu et à la corrompre. Donc, il est absolument nécessaire que l'Écriture soit conservé sur un support qui est stable, qui est objectif, qui garantit la pérennité des Écritures et Dieu nous promet dans sa parole qu'il va préserver cette même parole.
Ouais, effectivement. Et même les chrétiens en eux-mêmes ne sont pas infaillibles. L'histoire de l'Église démontre. Mm-hmm. Et quels que soient les pans du christianisme, que ce soit du côté orthodoxe, anglican, catholique, ou les différentes églises protestantes, l'histoire démontre que laissée elle-même, l'Église va toujours errer. Et que il n'y a de salut en cela que lorsque l'Église retourne à l'Écriture sainte. Et bon, le temps passe encore une fois très très rapidement, mais peut-être en quelques mots, nous expliquer, pasteur Pascal, qu'est-ce que le fameux sola scriptura, c'est une expression qu'on a entendue à la réforme protestante, l'Écriture seule, et donc le pourquoi de cela, et pourquoi est-ce que nous tenons au sola scriptura?
Oui, et c'est pertinent aussi, je pense, de le mentionner, parce que bon, tous les chrétiens de toute tradition confondue généralement reconnaissent la Bible comme la révélation divine, mais il y a différentes approches concernant la révélation de Dieu. Et c'est un des points fondamentaux, sinon le point fondamental de distinction entre les protestants et les catholiques. Donc, qui remonte à la réforme même. Martin Luther, qui est un des principaux instigateurs du mouvement de la réforme, donc dans les années 1500, en lisant la Bible, découvraient des enseignements qu'ils n'avaient jamais entendus ou compris de cette façon-là. Entre autres, comment est-ce que l'homme peut être sauvé? Et ce que Luther a découvert, c'est la gratuité du salut, que Dieu ne vend pas le salut, qu'on peut pas être justifié par nos œuvres. Donc, toute la question de la justification par la foi seule. Et Luther a commencé à prêcher ça. Et à dénoncer certains enseignements de son époque, entre autres la vente d'indulgence et donc le salut par les œuvres. Et l'enseignement de Luther a amené, bien sûr, une réponse de la part de l'Église qui n'appréciait pas donc ce que Luther publiait dans ses écrits, ce qu'il prêchait dans ses sermons, et le convoquer, je pense que c'est en 1521, la diète de Worms, le convoquer devant des magistrats. Hein. Il y avait l'empereur Charles Quint qui était présent, il y avait le roi Henri VIII d'Angleterre, il y avait les cardinaux de l'Église catholique. Le pape était pas là lui-même, mais tous les grands émissaires là, s'y trouvaient, et Luther n'est qu'un moine, là. C'est pas quelqu'un d'important, c'est juste un petit moine d'une paroisse. Et Luther est convoqué pour être examiné. Il y a des supporters à cette époque-là, et on le présente tout son enseignement avec ses écrits. Hein. Voici vos écrits, Monsieur Martin Luther. Reconnaissez-vous que c'est vous qui avez écrit ça? Il le reconnaissait. Et maintenant, le somme de se rétracter, de renoncer. Et c'est dans la parole de Luther où on voit le principe sola scriptura être affirmé le plus clairement. C'est pas la première fois où il y a eu des pré-réformateurs là, qui ont affirmé la notion de sola scriptura, mais de manière aussi claire, sans équivoque, et que c'est devenu le principe de la réforme. Et j'aimerais vous lire la réponse de Luther lorsqu'on l'a sommé de renoncer à sa compréhension du salut par la foi seule. Il a dit ceci. Puisque votre majesté impériale et vos seigneuries me demandent une réponse nette, je vais vous la donner sans cornes et sans dents. Non. C'était sa réponse. Il continue. Si l'on ne me convainc par les témoignages de l'Écriture ou par des raisons décisives, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est clair comme le jour qu'ils ont souvent erré et qu'ils se sont contredits. Je suis dominé par les saintes Écritures que j'ai citées et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il est dangereux d'agir contre sa propre conscience. Me voici, je ne puis autrement, que Dieu me soit en aide. Je pense qu'on a là, dans cet énoncé, le point de rupture entre le protestantisme et le catholicisme, entre l'approche réformée des Écritures, où on ajoute à la notion que la Bible est inspirée de Dieu, l'idée de sola scriptura, l'Écriture seule. Voilà.
Merci Pascal. Donc, l'Écriture seule, un retour constamment à la source hein, de la vérité, et cette source de la vérité objective, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les 66 livres de la Bible, et l'Église doit constamment revenir à cette vérité pour demeurer dans la vérité, se réformer constamment, et pour connaître la vérité, il faut aller à l'Écriture sainte. On n'écoute pas seulement ce qu'un pasteur dit, un prêtre, une église, une confession, hein, on va directement à la parole de Dieu pour voir est-ce que c'est ce que Dieu a réellement dit, et la parole de Dieu elle-même, nous l'avons déjà dit, elle est inspirée de Dieu, donc utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre et tout cela. Et il y a un homme dans une parabole que le Seigneur Jésus a enseignée dans le Nouveau Testament, en fait dans l'Évangile de Luc. L'homme, c'est le mauvais riche hein, qui est mort et qui s'est retrouvé ben, littéralement en enfer. Et Abraham lui a expliqué les raisons de cela et il demande justement à Abraham d'envoyer Lazare, qui était un pauvre qu'il connaissait, dont il n'était pas occupé, qui lui était dans le sein d'Abraham, donc sauvé, et de l'envoyer pour avertir tous ses frères hein, de qu'il existe un tel lieu de tourment. Et la réponse d'Abraham est ceci. Ils ont Moïse et les prophètes, dire la Bible, les Écritures, qu'ils les écoutent. Bien, cette parole-là, elle s'adresse à nous aujourd'hui encore. Hein. La parole de Dieu est présente. C'est le livre le plus répandu sur la planète. C'est un livre qui est facilement accessible. Et Dieu nous appelle à ouvrir le livre, à le lire, hein, à le sonder, à l'étudier pour pouvoir connaître la vérité. Et là, encore une fois, on revient sur le fait que la vérité ultime, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ que Dieu a donné pour le salut de quiconque croit.
Mais il faut raconter la fin de l'histoire.
Le temps passe rapidement. Pasteur, on va Pasteur devoir Pelletier. S'arrêter ici encore une fois. Merci beaucoup, Pasteur Pascal.
Vous m'entendez pas quand vous m'entendiez pas. Moi, j'ai le chrono devant moi puisque c'est moi qui, de mon côté, enregistre l'émission avec l'appareil technique là. Il nous reste encore un bon 6 minutes et je pense qu'il faut absolument dans ces 6 minutes que vous racontiez la fin de l'histoire de la parabole avec Abraham et le mauvais riche dans les souffrances, hein, quand il lui dit ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, et la réponse de cet homme c'est non Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et ça, on entend ça tout le temps. Hein, on veut du sensationnalisme. Si des morts reviennent à la vie et nous le disent, nous rendent témoignage, ils vont les écouter. S'il y a des miracles, s'il y a toutes sortes de phénomènes extraordinaires, si l'Église est attrayante, si vous mettez de la bonne musique, si je sais pas là, hein, cette idée qu'il faut faire sensation, il faut provoquer une impression très très forte, et là les gens vont croire, les gens vont se repentir. On voit ça aussi avec cette tendance des fois, ah, si telle personne se convertit, si Céline Dion se convertit à la foi chrétienne, tous les Québécois vont se convertir à Christ. Je plaisante un peu là, j'exagère, mais à peine on retrouve cette tendance là. Et la réponse d'Abraham à cet homme qui lui dit si quelqu'un des morts va vers eux, se repentiront, il dit ceci, Abraham: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Hein? Autrement dit, la parole, elle est pleinement suffisante pour convaincre qui que ce soit. Si les hommes n'écoutent pas la parole de Dieu, il n'y a rien à faire. Ils veulent des sensations, ils veulent quelque chose de magique, quelque chose de flamboyant. Mais même si tout cela arrivait sous leurs yeux, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ça ne sert de rien. Ça va les laisser dans leur condition spirituelle, c'est-à-dire ils demeurent morts dans leur péché. Alors, je voulais juste rajouter ce oui. petit point.
Oui, merci Pascal, merci. Effectivement, le prophète Ésaïe a dit « La parole est au témoignage, s'il n'en est pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Alors, le Fils de Dieu a paru, il a parlé, hein, il a récapitulé tout l'enseignement de l'Ancien Testament, et tout cela a atterri sur le support écrit des Saintes Écritures. Et les Écritures, c'est la révélation de Dieu aux hommes, c'est la parole de Dieu. Et donc, le Seigneur Jésus disait, celui qui écoute Dieu, celui qui écoute la parole de Dieu, hein, va m'écouter aussi. Et donc, il y a ici une interrelation. Celui qui croit au Christ croit à sa parole. Et donc, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Et donc, si quelqu'un, hein, a un cœur pour Dieu, eh bien, il va aimer la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Hein. Et encore une fois, si quelqu'un veut connaître Dieu, et en fait, tous les hommes ont besoin de connaître Dieu, de connaître Dieu à salut, eh bien, il faut nécessairement, de façon impérative, ouvrir la parole de Dieu. Bien sûr qu'il y a des gens, certains me diront, il y a des gens peut-être très instruits, il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire. Eh bien, faut se trouver une église et trouver quelqu'un qui va être capable de nous enseigner la parole de Dieu, justement, et vérifier si la personne enseigne réellement la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes, il nous a dit que lorsque l'apôtre Paul et son équipe missionnaire est arrivé dans la ville de Bérée, il nous a dit que les Juifs de cette région avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, parce que ils examinaient tout ce que l'apôtre Paul leur disait à partir de l'Ancien Testament. Alors ça, c'est intéressant. Ils aimaient la parole de Dieu, ils étaient fondés sur cette parole, et là, ils disaient, si cet homme vient de Dieu, si son message est vrai, il ne peut contredire ce que Dieu a déjà dit. Et donc, la parole de Dieu, l'Écriture sainte, c'est la source de toute vérité, c'est la norme, c'est le canon, comme on l'a déjà dit, hein, qui nous permet de mesurer si une chose est vraie ou fausse en matière norme. De foi. Et donc, il faut revenir constamment à la parole de Dieu.
Amen à ça. La seule règle, et je pense, quand on cherche une église, quand on cherche un endroit où fréquenter et adorer Dieu, ça devrait être un des critères fondamentaux. Est-ce que c'est une église qui est fidèle à la parole? Est-ce que c'est une église qui enseigne la parole et qui la met en pratique?
Je pense que c'est le principe protestant. Bien sûr, il faut rappeler ici, bien sûr, que les églises protestantes ont bien, une grande partie d'entre elles ont bien changé, ne reconnaissent plus l'Écriture pour ce qu'elle est, mais le principe protestant à la base, enseigne que la véritable Église se discerne justement, premièrement, par la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, si la parole de Dieu n'est pas centrale à la vie d'une Église, on peut se poser la question, est-ce que c'est là l'Église du Christ, hein? Puisque l'Église ne peut justement survivre et aller de l'avant sans la lumière de la parole de Dieu. Pascal, est-ce qu'on a fait notre temps maintenant?
Oui, pas mal. Là. Je veux dire qu'on est correct. Okay. Là, on peut aller à la pause.
Oui, on va faire pour la pause. OK. Donc, écoute, encore une fois, on ne peut que terminer en invitant les gens qui nous écoutent à ouvrir la parole de Dieu. Ceux qui ne l'ont jamais ouverte, peut-être que de commencer avec l'Évangile de Jean, un livre extraordinaire pour pouvoir découvrir qui est Dieu, se rendre dans une église qui est à proximité de chez vous, une église où la parole de Dieu est prêchée pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir aussi voir si ce que nous-mêmes nous lisons, la manière qu'on l'interprète, si c'est juste, bien sûr, et pour pouvoir justement connaître le Dieu de la parole et le Dieu de la parole qui s'est révélé en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, merci beaucoup, Pasteur Pascal.
Ça a été un plaisir.
Donc, au plaisir de se retrouver à nouveau pour une nouvelle émission de Parole à propos sur les ondes de ses foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers frères, et qu'il bénisse, bien sûr, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui. Et encore une fois, à la prochaine.